Beaucoup de gens en congé, ça paraît sur la route, du moins ça paraissait ce matin dans le trafic. Il n'y en avait pas. Je suis venu à la station sans arrêter ma voiture sur l'autoroute. C'est rare que ça arrive sur Henri IV, sur la capitale. Tout allait bien. S'il se passe quoi que ce soit actuellement dans la grande région de Québec, 418-971-1021. 418-971-1021 par texto.
Oui, route du président, autoroute 20 ouest, je veux dire, à partir de président Kennedy jusqu'à Taniata, ben c'est jamé.
Ça jamme, ah oui.
Ça jamme, oui. C'est du côté des vies que ça jamme plus. On a également la capitale direction est à partir de Henri IV jusqu'à Robert, jusqu'à Laurentienne. Il y a un petit ralentissement, mais rien de trop grave, là. Fait que c'est vraiment sur autoroute 20 ouest, là, le ralentissement
25
majeur.
Degrés sur Québec actuellement avec le facteur humidex. C'est une température ressentie de 31 pour ce soir. Quelques nuages, minimum de 17. Demain mardi, c'est des averses qui devraient débuter en matinée. Risque d'orage en après-midi avec un maximum de 24 degrés. Mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 26. Jeudi, des averses maximum de 22. Et vendredi, c'est des averses avec un maximum de 19 degrés. 418-971-1021, 418-971-1021, s'il y a quoi que ce soit, merci de communiquer avec nous. C'est-tu ton portable qui parle? C'est ton portable qui parle, mon ami. J'entends ça dans mes oreilles. Ou c'est ton téléphone?
Non, c'est pas moi.
Non, ben il y a quelque chose qui se passe.
La télévision? C'est la télévision, je pense.
Je sais pas. Bref, on va aller le rejoindre. C'est notre chum Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qui est au bout du fil. Salut, Nick!
Bonjour tout le monde, ça va bien?
Oui, ça va bien. Je sais pas si tu as vu l'article dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, mais 5 gardiens de prison pour un migrant, Ottawa, qui donne un contrat de 26 millions à Garda au Centre de surveillance de l'immigration de Laval. C'est un chiffre qui fluctue là, pour ce qui est des détenus migrants. On nous dit qu'à la mi-mai, on était autour de 6 migrants pour cet établissement-là. Maintenant, on est rendu à 9 migrants. Mais quand même, le contrat de 26 millions pour surveiller 9 personnes dans une bâtisse, je trouve ça hallucinant. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement continue d'embarquer dans cette folie-là, mais ces migrants-là qui représentent un danger pour la population, parce que dans cet édifice-là, on met les migrants qui ont un passé criminel, on pourrait les mettre en prison tout simplement, mais on dirait que c'est une lubie du gouvernement fédéral de mettre ces détenus-là à part des autres détenus canadiens. Je ne sais pas de quoi on a peur, mais c'est beaucoup d'argent. Là. 40 employés présents pour surveiller jour, soir, nuit, fin de semaine, ces 9 migrants-là.
Oui, puis c'est essentiellement, dans le fond, une prison temporaire. Là, donc, on paye beaucoup d'argent en tant que contribuable pour finalement quoi? Pour ce qu'une prison devrait normalement faire. Là, à se demander si on n'a pas non plus peut-être une aile dans une prison provinciale, ou ben, je pense que dans ce cas-ci, vu que c'est l'immigration, ça serait fédéral, où est-ce qu'on pourrait effectivement mettre ces personnes-là, parce qu'on parle pas non plus là, de migrants qui sont arrivés ici avec nécessairement les meilleures intentions, on parle de personnes qui ont participé à des activités criminelles, à moins que je me trompe.
Oui, c'est ça.
Donc c'est totalement normal de les mettre dans une prison, ne serait-ce que peut-être dans une aile différente des autres prisonniers, si on comprend, parce qu'ils n'ont pas le même statut, puis ils sont en attente d'être traités pour être ensuite passé devant un tribunal et ensuite, espérons-le, être retourné dans leur pays. Parce que, bon, si ce sont des criminels qui sont arrivés ici illégalement par-dessus le marché, il n'y a aucune raison pour nous de devoir les garder ici. Là, je pense que n'importe qui, peu importe où est-ce que vous êtes sur le spectrum politique, on peut tous s'entendre là-dessus. Mais oui, c'est pas la première fois. Puis généralement, à moins que je me trompe, j'ai pas lu l'article, donc je vais lancer ça à chaud, puis je me corrigerai par la suite. Mais il y a beaucoup de contrats qui sont octroyés, en fait, à des entreprises ou à des firmes qui sont essentiellement subventionnées pour prendre en charge les migrants. Mais ce sont des firmes privées. Donc, ils ont peut-être les compétences pour le faire, mais ils vont généralement changer le gros prix aussi. Il y a eu plusieurs exemples là, ça n'a rien à voir avec des migrants avec un dossier criminel. On parle plus de migrants normaux, là, plutôt de personnes en situation de demandeurs d'asile et autres. Ben, on se rappelle qu'il y a eu plusieurs épisodes où il y a eu des hôtels dans le coin d'Ottawa, dans le coin de Montréal et autres qui ont été administrés ou réservés par des firmes, puis on découvrait que finalement la facture ça coûtait quasiment là des centaines de milliers de dollars par chambre par moment pour que des personnes aient des endroits pour ne serait-ce que d'attendre le temps d'être passé devant un juge ou de passer devant les autorités compétentes. Donc il y a tout un, je dirais pas qu'il y a un racket là-dedans, mais il y a effectivement beaucoup de personnes qui profitent de cette misère-là d'une certaine
manière. Mais ça sent le racket, puis je suis d'accord avec toi. Moi, les migrants qui n'ont rien fait de mal ou les immigrants qui n'ont rien fait de mal puis qui doivent retourner dans leur pays, si on doit les loger, j'ai aucun problème à les mettre dans des motels ou dans des hôtels pendant un certain temps. Puis après ça, tout dans l'avion, merci, bye, on se reverra peut-être la prochaine fois quand tu vas refaire tes papiers. Mais moi, c'est les criminels, ceux qu'on incarcère, les 9 criminels qui nous coûtent 26 millions de dollars. Moi, ils me jouent dans la tête parce que ça prend 40 agents de sécurité jour, soir et nuit, 7 jours sur 7, même s'il y a 6 détenus ou 9 détenus, ça représente 135 000 piastres de fonds publics par poste. Et on regarde sur le site de Garda actuellement qui se cherche des agents de détention. C'est 30 piastres de l'heure, donc 29,89 de l'heure pour surveiller ces gens-là, ce qui représente à peu près annuellement 62 000 par année. Donc, ça nous coûte 62 000 par année par gardien, mais la compagnie Garda charge 135 000 pour un total de 26 millions. C'est des criminels, ces gens-là, Nick. Puis ils sont dans une prison. On pourrait les envoyer tant au fédéral qu'au provincial. Puis si on les envoie au provincial, exemple ici, là, à Québec, au centre de détention d'Orsainville, bien, le centre de détention d'Orsainville a juste envoyé la facture au gouvernement fédéral en disant « Bon, on a hébergé un migrant qui était dangereux pour vous autres, vous nous devez tel montant, mais ça ne représentera jamais total tout pour 9 détenus, 26 millions. »
Non, 26 millions pour 9 détenus, c'est carrément, là, c'est une arnaque. Là. Je veux dire, en même temps, je mets ça en parallèle. Imaginez si on dépensait autant pour les criminels comme ça qu'on en dépensait pour prendre soin de nos aînés à la place dans les CHSLD et autres. Ça serait le fun que ça soit le monde inversé. Mais dans ce cas-ci, c'est tellement de ressources. Puis en plus, là, dans ce cas-ci, je veux dire, c'est effectivement la responsabilité du fédéral. Parce que bon, l'immigration, ça rentre sous le couvert fédéral. La gestion de la frontière également. Donc, ça serait quand même le minimum que ce soit eux qui assument le coût. Mais à la fin de la journée, on le rappelle, ça reste le contribuable qui paye peu importe qui arrive. Donc, je veux dire, c'est totalement risible là, qu'on soit rendu à payer 26 millions pour aussi peu de personnes. Mais moi, ce qui en fait, la première question que je me pose, c'est depuis combien de temps cette situation-là dure et combien de temps ça va durer avant qu'il y ait un réveil qui se fasse dans les instances gouvernementales puis qui fasse, OK, peut-être qu'on devrait accélérer le processus pour que ces personnes-là soient peut-être déportées plus rapidement. Comme ça, on va les garder moins longtemps, ne serait-ce que, en emprisonnement. Ben, j'allais dire en prison, mais ça devrait être une prison, mais dans ce cas-ci, c'est pas tout à fait ça, là. Au final, oui, c'est de savoir depuis combien de temps ça dure, puis combien de temps ça va durer. Parce que plus ça dure, plus ça coûte cher aux contribuables. Puis malheureusement, on a un gouvernement fédéral présentement qui semble laisser aller le dossier. Là, on n'a pas l'impression que sous Carney, il y a vraiment un changement de culture par rapport à la gestion de l'immigration illégale au pays. C'est pas mal le same old que ce que c'était sous l'administration de Justin Trudeau.
Ouais, je parlais avant la pause, je parlais avec Mathias du sondage qui est sorti en fin de semaine, je pense que c'est samedi, dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, sur les politiciens les plus aimés. Et Mark Carney est très, très, très apprécié des Québécois, là.
Oui, c'est un peu naturel. C'est la fameuse lune de miel qui suit les élections. D'habitude, c'est très rare. Même, je pense pas que ce soit arrivé déjà au Canada où est-ce qu'on a un gouvernement qui a été élu, puis dans les semaines, dans les 2-3 mois qui ont suivi, sa lune de miel a pris fin. Je pense qu'il y a peut-être juste eu Stephen Harper en 2011 ou en 2006. Là, je vais me rappeler si c'était sa première élection. Mais bref, sa lune de miel avait duré moins longtemps, mais faut dire que c'était très différent. Il y avait aussi eu une genre de lune de miel pour Jack Layton à ce moment-là qui occupait l'opposition officielle, donc c'est un autre environnement, un autre contexte. Mais pour Carney, effectivement, il est très apprécié des Québécois. Il faut rappeler aussi que si les libéraux ont un gouvernement plus fort présentement à Ottawa, c'est en très grande partie grâce au Québec, on va pas se le cacher. Maintenant, c'est à savoir combien de temps ça va durer tout ça. J'ai hâte de voir la suite des choses parce que on n'a même pas encore vu de budget. La session parlementaire a duré quelques semaines à peine, le temps qu'on fasse passer un paquet de projets de loi, dont C5, qui pourrait quand même avoir un impact non négligeable sur les champs de compétences provinciales, entre autres par rapport au commerce. Donc, j'ai très hâte de voir ce que les gens vont en penser quand ça va s'appliquer. Et j'ai aussi hâte de voir ce que les gens vont penser de ce qui va se faire là, d'ici cet automne, tant le dépôt du budget que les négociations qui s'en viennent avec les États-Unis, où peut-être qu'il y aura d'autres concessions qui seront faites et peut-être que l'étoile de Carney va pâlir d'ici là. Mais pour l'instant, il profite à peu près de la même forme de lune de miel que tous ses prédécesseurs avant lui.
Je sais pas si tu as vu l'article de Gabriel Côté dans le Journal de Québec, mais c'est dans la catégorie « Où vont vos impôts? » Les voyages du personnel administratif de la Chambre des communes qui coûtent énormément cher aux Canadiens. Écoute, en septembre septembre 2024, le directeur des produits et services numériques des communes. Son nom, c'est Yacine Aouididi. Il s'est rendu à Amsterdam pour assister à une conférence dans le cadre d'une étude des, puis là j'ouvre les guillemets, institutions démocratiques internationales qui ont un faible taux de blessures parmi les interprètes. Je répète, là, institutions démocratiques internationales qui ont un faible taux de blessures parmi les interprètes. Et si on se fie au rapport de dépenses, ça a été un voyage de 3 jours dans la capitale qui aura coûté 11 000 $, donc 4 756 $ pour 3 jours uniquement pour l'hébergement et 3 000 $ en frais de repas, des sommes, on va se le dire, assez considérables. Et les porte-paroles du gouvernement ont dit « Ouais, mais là, c'est pas 3 jours, c'est peut-être plus 11 jours. » Mais quand même que tu mets cette facture-là sur 11 jours, ce qu'on apprend, c'est que ça fait quand même 432 $ par nuit et 280 $ par jour en frais de repas, ce qui est une catastrophe là, pour un seul individu.
Oui, ben c'est ça. C'est pour un seul individu que je me gratte la tête parce que ça a l'air d'être une facture pour deux personnes. Quand on regarde ça en réalité, 280 $ en repas, puis il était quand même, bon, je comprends qu'il était à Amsterdam en Europe, puis que le taux de change entre le dollar canadien, et l'euro, c'est pas tout à fait la meilleure des choses présentement, ou du moins ça fait longtemps qu'on sait que c'est pas mal plus cher. Mais de 280 $ par jour en frais de repas, je veux dire. C'est quelque chose qu'on dépense quand on est deux. Là. Donc, je me demande s'il était peut-être accompagné pour ce voyage-là. Je ne vais pas non plus insinuer quoi que ce soit. Là. Je veux dire, quand même, à la fin de la journée, ça reste un fonctionnaire qui puis c'est pas non plus le premier à avoir dépensé sur notre bras là, pour des voyages à l'étranger. D'ailleurs, ça me permet de glisser un petit astérix comme ça. On a fait notre fameux gala des prix Teddy's la semaine dernière, oui. Où est-ce qu'on remet des prix aux pires gaspillages gouvernementaux. Donc, on a plusieurs catégories municipales, provinciales, fédérales. Puis, on remet aussi à la fin un fameux prix hommage d'une vie au pire gaspillage. Puis cette année, ben c'est la personnalité qui a gagné le fameux prix hommage. C'est la même personne qui a profité en fait là, d'un séjour en Angleterre, à Londres, pendant les funérailles de la reine d'Angleterre pour se payer une chambre d'à peu près 6 000 $ par nuit dans une suite là, qui était extrêmement somptueuse. Puis finalement, on a appris que c'était Justin Trudeau. Fait que c'est pas pour la fameuse suite uniquement. On a donné le prix à Justin Trudeau pour l'ensemble de son œuvre, là, de doubler la dette, augmenter la fonction publique, les scandales de dépenses et compagnie. Mais ça me rappelle que sous Justin Trudeau, et ça, c'est comme la continuité avec Carney, quoi, que tout ce qu'on voit avec monsieur Aouididi, c'est pas mal. Ça s'est passé sous le gouvernement de Trudeau, mais c'est encore une fois qu'on permet les dépenses somptueuses à n'importe qui, à n'importe quel fonctionnaire. On regarde la facture plus tard, puis on essaie de la justifier au lieu de plutôt déjà en aval, en amont, essayer de prendre des décisions pour éviter qu'il y ait des dépenses qui soient exagérées.
Mais dans une entreprise privée, là, Nick, on donne des critères. Tu sais, moi, là, quand je travaillais pour une entreprise privée, puis je devais me déplacer, là, c'était, on me remboursait 20 $ mon repas du midi, puis on me remboursait 30 $ de mon repas du soir. Si je dépassais ça, c'est moi qui devais payer. Puis s'il y avait de l'alcool, je devais la payer moi aussi. Mais puis pour ce qui est de me loger, il me remboursait 150 $. Fait que si je choisissais une chambre à 200 $, je devais faire une compensation de 50 $. Puis eux autres, ils me remboursaient le 150 $. Lui, à 432 $ par nuit à l'hôtel, puis 280 $ par jour en frais de repas, il n'y a pas de restriction. Là. Lui, c'est bord ouvert, peu importe où il va. Là.
Ben c'est ça. Je pense que le strict minimum qu'il devrait avoir dans la fonction publique fédérale présentement, ou qu'il aurait dû toujours avoir, c'est comme tu l'as expliqué, dans le privé, on met vraiment des barèmes très stricts, on indique qu'est-ce qu'on couvre puis qu'est-ce qu'on couvre pas, puis si jamais tu dépasses la facture, ben tu t'arranges avec tes troubles. Dans ce cas-ci, il aurait pu dire, écoutez, là, au-delà de 300 $, parce qu'on s'entend qu'à Amsterdam, bon, ça reste une ville très touristique, je m'attends pas à ce que les prix soient ultra accessibles, quoique je connais pas la ville. Donc, on pourra nous corriger au passage si jamais on apprend finalement que les chambres d'hôtel, des hôtels les plus luxueux de la place coûtent 200 $.
Ça dépend, Nick. À Amsterdam, tu veux avec extra ou sans extra?
Ouais, j'espère qu'il n'y a pas d'argent des contribuables qui a été là-dedans non plus, mais ouais, au final, je pense que c'est ça. Si on mettait des critères plus stricts, ça permettrait de contrôler les dépenses à l'étranger, puis malheureusement, il n'y a jamais eu de réveil politique à ce niveau-là, peu importe tous les scandales qu'on a déterrés et qu'on a ramenés de l'avant. Malheureusement, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans le Journal de Montréal, puis c'est pas la dernière fois non plus.
Hey, j'ai des chambres ici, là, au Amstel à Amsterdam, qui est quand même un hôtel 5 étoiles. On est à 211 $ par nuit, donc 257 $ avec les taxes, 257 $ avec les taxes pour une nuit. Là. Lui, il est à 480 $ là, par nuit. Là.
Ben, c'est ça. Moi, je réitère mon hypothèse, que j'espère que ça ne rentrera pas dans le, comment dire, le domaine de la diffamation, mais dans le cas d'une chambre à 482 $ par nuit, ça semble être une chambre pour deux ou une suite ou quelque chose comme ça. Ça ne semble pas être une chambre pour une seule personne. Donc, peut-être, bon, je laisse entendre ça parce que on se rappelle la facture des repas, 280 $ par jour. Fait que tout ça étant dit, est-ce que monsieur était parti en voyage seul ou accompagné? Puis, parce qu'on n'a pas d'affaire à payer les dépenses pour l'accompagnant, là. Je veux dire, si par exemple, un fonctionnaire, il profite des circonstances, on lui dit, OK, tu t'en vas à Paris, tu vas participer à une conférence pour le G7, tu peux y aller avec un accompagnant, puis ça, c'est ils ont le droit. Mais à la fin, les contribuables n'ont pas à assumer la facture de la personne qui accompagne le fonctionnaire. Puis en même temps, ben, en fait, avant même de se poser cette question-là, on avait aussi se poser la question à savoir, est-ce que ce voyage-là, il en valait la peine? Parce qu'on réitère, là, si on regarde le titre exact de cette fameuse conférence que tu m'as donnée, c'est appelé, là... institutions démocratiques internationales qui ont un faible taux de blessures parmi les interprètes. Je sais pas ce que ça veut dire, là. Mais ça a l'air d'être le genre de choses que tu peux faire sur Zoom, là. Ça a tellement l'air d'être du contenu super lourd que tu te demandes finalement si c'était pas quelque chose qui aurait pu se faire autrement qu'avec un voyage avec dépenses dans les hôtels.
Mais c'est parce qu'au départ, tu dis 3 jours pour cette institution démocratique internationale qui ont un faible taux de blessures parmi les interprètes. OK, bon, 3 jours, c'est un genre de congrès, il parlait de ça, mais c'est peut-être beaucoup trop, 3 jours juste pour parler de ce sujet-là. Puis là, la porte-parole qui dit, moi, non, mais c'est pas 3 jours, ils se sont trompés, là, dans le compte-rendu, c'est 11 jours. Hey, 11 jours à parler des institutions démocratiques internationales qui ont un faible taux de blessures parmi les interprètes. Ça a-tu donné de quoi concrètement? La réponse, c'est probablement non. Mais bref. Hey, je veux te parler de d'autres choses. C'est dans le même article. On parle de deux fonctionnaires qui ont déclaré s'être rendus au Brésil du 13 au 14 avril 2023. Eux, ils voulaient assister à une conférence qui s'appelait Légitech sur la modernisation institutionnelle de la transformation et la transformation numérique. Et en réalité, ben, ce voyage, de ce qu'on comprend, s'est passé du 10 au 16 avril. Et la conférence ne se tenait que le 13 et le 14 avril. L'administration du Parlement fédéral n'a pas expliqué pourquoi les deux employés sont arrivés 3 jours plus tôt et repartis 2 jours plus tard. Leurs allocations de dépenses, Nick, pour le déplacement s'élèvent à 9 413 $ et 6 901 $. On parle d'une différence qu'on expliquerait par le fait que l'un des deux aurait bénéficié d'un crédit de billet d'avion. Dans l'autre cas, 12 800 $ pour aller à Las Vegas. L'autre cas concerne le cas de voyage de deux stratèges en produits numériques à une conférence de Las Vegas. Selon le rapport, les deux fonctionnaires auraient passé 4 jours seulement dans la ville du péché, alors qu'en réalité, ils sont allés 9 jours. Ils ont quand même facturé des dépenses d'environ 6 400 $. Fait que, on est loin du fameux jus d'orange à 20 $ de Bevoda quand on réclamait sa démission, là.
Non, effectivement, puis surtout que je pense pas qu'il va y avoir de conséquences, là. Puis le plus dérangeant là-dedans, c'est possiblement la phrase que tu as mentionnée, là. L'administration du Parlement fédéral n'a pas expliqué pourquoi les deux employés sont arrivés 3 jours plus tôt et repartis 2 jours plus tard. Je peux comprendre que tu arrives une journée plus tôt ou deux, là. Je veux dire, ça va dépendre, à cause des vols, puis le Brésil, bon, y a des escales. Je connais pas nécessairement les horaires des deux personnes concernées, mais de repartir après ça 2 jours plus tard, encore une fois, pourquoi 2 jours, pourquoi pas genre le lendemain, là. Tu sais, je peux comprendre qu'une soirée, là, à la fin d'un événement ou d'une conférence, ou est-ce que c'est généralement, ça se finit toujours avec des événements de networking, c'est ce type de sommet-là, mais au final, comment ça se fait qu'on est en mesure de rester quasiment 5 jours de plus que prévu? C'est ce qui fait aucun sens. Puis en plus, qu'on a littéralement le Parlement qui refuse de donner des explications. Donc, on dit carrément aux contribuables, écoutez, on a des fonctionnaires qui payent la traite sur votre dos, qui se promènent, qui font des voyages, qui reste plus longtemps que prévu à l'étranger, qui vous envoie cette facture-là, puis on n'est pas capable de vous dire pourquoi. C'est essentiellement ce que dit le Parlement présentement. C'est totalement dérangeant, là. Je veux dire, de voir à quel point, comme tu l'as mentionné, on est loin du fameux jus d'orange de Bevoda, là, à 13 $, mais en même temps, ça, c'était pour une élue. On s'attendait donc à avoir beaucoup mieux en termes d'éthique et de respect de l'argent des contribuables. Mais là, quand on voit des fonctionnaires qui s'en permettent plus puis qui n'ont aucune conséquence, ben là, on aimerait ça peut-être avoir une forme de ménage de la part du gouvernement de Mark Carney présentement, parce que ça a été ça a été promis à quelque part là, qu'il y aurait un ménage dans la fonction publique, qu'on s'attaquerait entre autres aux dépenses de consultants, où on s'attaquerait aux voyages et tout ça, mais finalement, on voit que ça fait quand même des années là, que ça dure comme ça. Bien sûr, ça, c'est un voyage qui remonte à 2023, donc c'est encore une fois sous Justin Trudeau, mais est-ce que ça va continuer encore, puis on va voir des scènes similaires l'année prochaine et l'année suivante? Ben là, ça c'est la balle est dans le cas de Mark Carney, parce que sinon, on va se rappeler de son gouvernement comme celui de son prédécesseur, dépensier puis irresponsable.
Petite bulle au cerveau de Donald Trump était fâché de voir qu'il y avait une taxe sur les services numériques, donc il a dit « Moi, je quitte la place », et là, Mark Carney a dit « Ok, c'est correct, on va l'enlever, cette taxe sur les services numériques », et là, Donald Trump va recommencer les négociations. Qu'est-ce que ça donne concrètement, ce retrait sur la taxe sur les services numériques?
Oui, bien, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'au final, on vient, nous, les consommateurs de produits numériques, qui utilisons toutes les plateformes possibles, en passant de Amazon à Uber Eats, à Netflix et compagnie, faut rappeler que tout ça, ce fameux projet de taxe sur les services numériques, c'était de longue date. Là. Ça fait depuis 2019 que c'était sur les lèvres là, des libéraux à Ottawa. Finalement, en 2020, on commence à introduire dans la mise à jour économique, la notion qu'il va y avoir éventuellement une taxe sur les services numériques. Et il s'est entré en vigueur l'année dernière. Puis là, le premier paiement qui était dû, c'était pour cette année. Puis ça, c'est une taxe d'environ 3% sur le chiffre d'affaires des opérations, donc des compagnies numériques au Canada. Donc, pas leur chiffre d'affaires global pour leurs opérations partout sur Terre, mais précisément au Canada. Et l'affaire, c'est que, bon, au début, le monde disait, ah, ben, c'est une taxe de 3% qu'on met sur les géants du numérique qui va permettre au gouvernement d'aller chercher des revenus, puis ça va permettre ensuite d'être réinvesti en culture. Ça, c'est la manière qu'on sugarcoat un peu cette taxe-là, mais ce qui a été démontré par le directeur parlementaire du budget à Ottawa, ainsi que par d'autres expériences, comme en France notamment, où est-ce qu'on a fait la même chose, où est-ce qu'on a imposé une taxe sur les services numériques, on a réalisé que ça faisait augmenter les prix des produits numériques essentiellement, donc les abonnements ou les coûts pour les publicités et autres. Donc essentiellement, la taxe sur les services numériques, comme elle a été appliquée dans plusieurs pays européens, a été refilée aux consommateurs de manière quasi totale. Et nous, au Canada, on s'en allait dans cette même direction-là. Sauf que, bon, Donald Trump, lui, il a pété une coche, il a dit, effectivement, c'est une attaque contre les entreprises américaines, parce qu'on va le dire franchement, la quasi-totalité des entreprises numériques sont américaines. Et il a dit, ben écoutez, vous la retirez, sinon on met fin aux négociations. Et donc, c'est une autre taxe qui est issue de l'ère Trudeau, que Mark Carney a décidé de retirer de l'équation. Donc, juste pour donner une idée, juste cette année, c'était supposé ramener au gouvernement fédéral 1,2 milliard de dollars en revenus. Donc, ça aurait possiblement été payé par nous-mêmes via nos différents abonnements et ou tout type de produits et de services numériques. Mais au courant des 5 prochaines années, ça allait nous coûter 7,2 milliards. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent qui a été pigé dans nos poches par la porte en arrière, encore une fois. Et ça s'ajoute donc aux multiples taxes qui ont déjà été sabotées par Mark Carney, qui, comme je dis, qui sont issues de l'ère Trudeau. On se rappelle la taxe carbone, on se rappelle la hausse de l'impôt sur le gain en capital, et là, finalement, on a la taxe sur les services numériques. Je ne sais pas si les gens s'attendaient à un elbows up avec Mark Carney par rapport aux négociations avec Trump, mais ce qu'on a vu hier, c'est un elbows down solide. Par contre, les contribuables sont gagnants parce que c'est une taxe qui, finalement, ne verra pas le jour et qui va, espérons-le, retourner aux oubliés.
Ouais, j'ai juste hâte de voir où est-ce qu'ils vont puiser pour le manque à gagner de 7 milliards de dollars qu'on voulait avoir sur 5 ans.
On va le savoir cet automne quand ils vont déposer un budget. Mais effectivement, là, je me souviens plus de qu'est-ce qui était projeté en termes de déficit. Je pense qu'on disait initialement dans la dernière mise à jour économique d'automne en décembre dernier, ils disaient que cette année on aurait un déficit de 40 milliards. Mais ça, c'était avant qu'ils donnent le congé de la TPS, qui retire la taxe carbone, qui recule sur la hausse de taxes, et là, ils retirent la taxe sur les services numériques, qui dépensent davantage pour l'armée. Je m'attends vraiment à ce qu'on soit dans le rouge cet automne. Puis, comme toi, j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller chercher l'argent. J'espère qu'ils vont couper plutôt que d'aller en chercher davantage, mais on connaît les réflexes de ce bon vieux gouvernement fédéral, donc il ne faudra pas être surpris, mais il va falloir rester vigilant pareil.
On va avoir une baisse d'impôts bientôt, là. C'est-tu demain que ça commence, la baisse d'impôts?
Oui, c'est officiel. La première, une baisse d'impôts fédérale, on va la prendre avec, et on va la célébrer pour ce que c'est. Donc, c'est une baisse d'impôts de 0,5 points de pourcentage sur le premier palier d'imposition fédérale. Donc, ça entre en vigueur dès demain et ça va permettre aux ménages à travers le Canada d'économiser quand même un bon petit montant d'argent, moins que prévu, parce qu'il faut se rappeler durant la campagne électorale, Mark Carney avait parlé d'une baisse d'impôts de 1% sur le premier palier d'imposition. Il fallait donner environ 825 $ d'économie par famille à deux revenus. Ça, c'est ce qui était promis. Puis finalement, on a appris que finalement, ben, ça va être moins élevé que prévu. Donc, si vous êtes une famille à deux revenus, c'est environ 285 $ que vous économisez cette année grâce à cette baisse d'impôts. Si vous êtes une personne qui vit seule, c'est environ 90 $ Donc, c'est un montant qui devrait doubler l'année prochaine. Et pourquoi? Et parce que, comme je l'ai dit, durant la fameuse campagne électorale, on parlait de 1 point de pourcentage. Là, on a un demi-point cette année, puis on devrait avoir le reste de la baisse d'impôts l'année prochaine. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner au final pour l'ensemble de l'économie, mais au moins, ça va permettre aux gens de garder un peu plus d'argent dans leur poche. Ouais. Et c'est effectif de demain.
Je trouve ça bien qu'on pense aux gens seuls, hein, parce que très souvent, on pense aux familles, il faut le faire. Très souvent, on pense aux moins bien nantis, on pense aux personnes âgées, mais les gens qui habitent seuls actuellement, là, voyant le prix des loyers puis le prix des maisons qui augmente année après année, le prix des taxes municipales, eux autres, ils mangent toujours une volée, là, puis les politiciens ne parlent jamais pour eux autres. Ils ne leur donnent jamais rien. Là, de voir qu'il va y avoir une petite économie de ce côté-là, je trouve ça bien.
Là, effectivement, au moins on peut le dire, puis on peut le souligner, c'est une baisse d'impôts qui va effectivement profiter à tous les contribuables.
Je pense à toi, Monique. Je pense à toi, Monique.
Mais merci, c'est gentil. Mais moi, écoute, pour être très honnête, autant que j'apprécie les baisses d'impôts, autant que d'un autre côté, je veux dire, je suis pas la personne qui en a le besoin le plus. J'aurais préféré que la baisse d'impôts soit plus généreuse que ça, ben, ne serait-ce que pour les familles qui en arrachent réellement puis qui ont la difficulté à joindre les deux bouts, parce que c'est à eux que je pense constamment. Mais on va prendre ce qu'ils pensent, puis on va espérer que Mark Carney respecte sa promesse de nous donner la deuxième baisse d'impôts le 1er juillet de l'année prochaine également. Comme ça, bon, on pourra être sûr d'avoir un peu plus d'argent dans nos poches à la prochaine, au courant de la prochaine année.
Parle-moi de la Sunshine List. Pourquoi le Québec en aurait besoin d'une Sunshine List?
Ben, écoute, on parle souvent de tout... Oh. Excuse-moi. On parle souvent...
T'as des émotions?
Non, c'est un autre appel qui est rentré, mais c'est parce que essentiellement, on parle souvent de la fonction publique provinciale, puis à quel point on en perd le fil, à quel point ça nous coûte cher, puis aussi à quel point on est rendu avec tellement de fonctionnaires. Là, la dernière fois qu'on a regardé les chiffres, on était à plus de 620 000 fonctionnaires en tout et partout, que ce soit dans la fonction publique, donc dans les ministères, les agences fédérales, les agences provinciales, ou sinon dans les écoles, dans le système de santé, etc. Et donc, la réalité, c'est qu'il y aurait un mécanisme qui permettrait à monsieur et madame tout le monde de suivre l'évolution de cette fonction publique-là. Puis malheureusement, ça n'existe pas au Québec, mais ça existe dans les autres provinces. Et ça s'appelle la fameuse Sunshine List. Ça, c'est une liste qui permet de connaître vraiment tout le nombre d'effectifs qui font plus de 100 000 $ par année. Donc, essentiellement, là, tous les fonctionnaires qui font un salaire dans les six chiffres, et ça nous permet un peu d'avoir une idée du poids de la fonction publique et de son coût. Et pourquoi je fais référence à ça, c'est parce que nous, à la Fédération, on avait découvert, en fait, qu'à Ottawa, au courant des dernières années, non seulement la fonction publique a explosé d'à peu près 100 000 fonctionnaires là, dans 10 ans, mais par-dessus le marché, le coût de la fonction publique a augmenté de 73%. Et pourquoi? Parce qu'à peu près un fonctionnaire sur trois au fédéral fait plus de 100 000 $ par année. C'est quand même assez énorme. Là, c'est pas loin de 350 000 fédérales. Le tiers font plus de 100 000. Mais malheureusement, ça, c'est difficile d'obtenir l'information complète parce que l'information n'est pas publique. Alors que dans la plupart des autres provinces, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et autres, ils ont toute une Sunshine List, mais il y a deux juridictions au Canada qui en ont pas. Le fédéral et le Québec. Et comme de fait, ce sont les deux juridictions qui ont vu leur fonction publique le plus exploser au courant des dernières années. Il y a quelques jours, j'ai fouillé dans les chiffres par rapport au coût de la fonction publique au Québec. Dites-vous que sous François Legault, la rémunération globale de tous les fonctionnaires, là, si on prend toute la fonction publique, là, le coût en termes de salaire et de rémunération, quand Legault est arrivé, c'est environ 45 milliards de dollars par année que ça nous coûtait en salaire, ce qui est quand même assez énorme. Présentement, on est rendu à 64 milliards de dollars par année. Donc, au courant des 7 dernières années, la fonction publique nous coûte maintenant 19 milliards de plus par année que ce que ça nous coûtait auparavant. Donc, c'est énorme le coût que ça représente. Et ça, c'est en bonne partie parce qu'on a augmenté la taille de la fonction publique, mais aussi augmenté les salaires. Et ça, ben, les contribuables en payent le prix, mais ils savent jamais c'est quoi le nombre. Et ils ont jamais de transparence de la part du gouvernement. Donc, une Sunshine List, c'est un des éléments qui permettrait aux gens de réaliser à quel point ça leur coûte cher avoir une fonction publique qui leur en donne de moins en moins.
On mettra ça dans nos vœux de Noël, mon ami.
Avec grand plaisir.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Je te salue.
Je te salue, à très bientôt.
À la semaine prochaine, bye-bye. Pour en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable avec un S.ca. Mathieu.
Oui, 20 direction ouest présentement sur les routes, c'est le bordel. Là, c'est vraiment c'est du bon trafic à partir de Président Kennedy jusqu'à Taniata. C'est très, très, très lent. On a également la 40 direction est, ça part d'Henri IV jusqu'à Laurentienne, un ralentissement. Si vous êtes sur Laurentienne, direction sud, eh bien, attendez-vous à un petit ralentissement en arrivant sur Capitale.
Merci beaucoup, on fait une courte pause, on revient.